L'enfer, comme chacun sait, c'est les autres, surtout les autres avec qui l'on partage un étage sous les toits, les autres qui farfouillent dans votre garde-manger, terrorisent votre tuyauterie, font du karaoké khmer après 22h, font assaut de poissons rouges et encombrent le palier avec leurs emballages absurdes. La vie est une machine infernale de précision dont le metteur en scène Pierre Guillouard a remonté le mécanisme. Il nous en fait apprécier le tic-tac terrible et nous l'a fait péter au nez sans prévenir, dont acte avec son redoutable bigre. Bigre visible au théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 17 janvier. Venez armer, l'endroit est désert.
Son nom de famille ne laisse pas de doute à ce sujet, elle est de celle qui coupe à travers champs. La professeure d'art appliqué et illustratrice a fait un film au hasard. À aucun moment, avant de prendre la caméra qu'un de ses amis lui a prêtée, elle n'avait pensé à faire du cinéma. Un film en tout cas qu'elle pourrait faire sortir de la cellule familiale et montrer dans une salle. Et pourtant, après 4 ans de tournage, 1 an de montage, l'objet est bien là. Et il a même été programmé au dernier festival de Cannes dans la sélection de l'Acide. Pauline s'arrache, c'est un film sur une sœur belle, drôle, rêveuse, emmerdeuse en chef, amoureuse et révoltée, une ado de 15 ans au départ et qui traverse les âges entre une mère ex-reine de la nuit et un père qui ne cesse de chercher la femme qui est en lui. C'est en fait un film sur la recherche de soi, y compris pour sa propre réalisatrice que nous recevons ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Émilie Brisavoine.
Bonsoir.
Comment ça commence bien? Allô papa?
Trop, c'est trop.
Ta gueule, ta gueule.
À table!
Émilie Brisavoine, vous racontez qu'il n'y a aucune démarche cinématographique au départ, à l'origine de Pauline s'arrache. Un jour, c'est donc un de vos amis qui vous prête sa caméra et vous commencez à filmer votre famille de manière très irrégulière. Comment le champ de ce parcours filmique s'est, au fur et à mesure, resserré sur votre sœur, Pauline?
Bah en fait, Pauline m'a toujours beaucoup fascinée avec sa spontanéité et puis son bagou, son naturel. Et puis, et en fait, plus je la filmais, plus je me rendais compte à quel point elle était cinégénique. Et surtout, elle était hyper à l'aise avec la caméra. Et au fur et à mesure que j'ai filmé sur plusieurs années, c'est devenu de plus en plus un rendez-vous un petit peu cathartique entre nous, où elle se livrait, où elle déposait des choses finalement à cette caméra qui était une espèce d'instance hors champ, hors famille, et à laquelle elle aimait se confier. Et c'est pour ça qu'on passe au début de Rush, où j'enregistre la réalité, où moi-même d'ailleurs je commence à filmer, donc j'apprends un petit peu, je regarde, et puis au fur et à mesure où on rentre dans quelque chose de plus introspectif.
Alors, Pauline, elle a été interviewée par une de nos collègues récemment, Aurélie Charron, productrice de Backstage tous les lundis soirs sur France Culture à 23h. Et elle, Pauline, donc, disait à notre collègue que ce film, Pauline s'arrache, l'avait aidée à mieux se comprendre elle-même. Vous, en filmant votre famille, parce qu'on y voit aussi beaucoup votre mère, votre beau-père, vos demi-frères aussi, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même à travers ce travail, Émilie Brisavoine?
Qu'est-ce que j'ai appris de moi-même? Ben, j'ai appris peut-être quelle est ma place aussi. Quelle est ma place, parce qu'on sait beaucoup de choses intuitivement, mais après, le fait de les rationaliser en faisant des choses par l'action, ça permet aussi de poser. C'est-à-dire que moi, je suis la demi-sœur, c'est que j'ai un pied dedans et un pied dehors. Et donc, je suis investie émotionnellement dans cette famille, puisque c'est des personnes que j'aime et avec qui on a vécu des choses. Et en même temps, j'ai aussi cette distance qui fait que... quand on voit les siens qui vont mal, on a envie de les aider et en même temps, on ne sait jamais comment vraiment les aider puisque les gens, pour être aidés, ils doivent... enfin, on ne peut pas les aider à leur place. C'est eux qui décident de s'aider. Mais en l'occurrence, on peut les accompagner, on peut leur dire qu'on est là et on peut se rendre disponible. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Alors le titre, c'est important. Pauline s'arrache, c'est un titre qui a tout de suite eu du succès. De Pauline, on s'est amouraché aussi, donc succès total. Le titre de votre spectacle, Pierre Guillouard, vous, c'est bigre. Alors bigre, c'est extraordinaire parce que c'est un mot bref qu'on attribue d'habitude à l'étonnement d'un personnage un peu assis, un peu classique. Bigre, pourquoi ce titre et pourquoi ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire?
Alors en effet, pour la stupéfaction, c'est pas mal. Et il se trouve que les personnages subissent un nombre de revers, de catastrophes. Et il se trouve aussi que j'ai dû donner ce titre avant que le spectacle n'existe. Et puis, c'est aussi un titre pour un spectacle où il n'y a pas de parole. Mmh. Donc, qui raconte pas trop et qui juste, voilà, puisse donner une image du spectacle. Donc, je trouve que ça raconte quelque chose.
Alors, ce sont trois personnages qui vivent, comme je le disais, sous les toits, dans trois espaces tout à fait différents. À ma gauche, il y a un espace blanc, assez... très clean comme ça, mais enfin faussement clean. Au milieu, il y a le vôtre, un espace plus rempli. Et puis après, le troisième, il y a l'espace donc, de la comédienne,
qui cosy.
Plus cosy. Et donc, tout a été une affaire de construction, de circulation, d'échange entre ces trois espaces, à la faveur d'un, justement, un spectacle muet. Donc, il a fallu remonter, créer une mécanique que vous nous montrez à l'envers. Tiens, on est du côté des rouages, on n'est pas du côté de l'heure, on est du côté des rouages. Et il a fallu bâtir une espèce de mécanique scénique, purement formel, purement gymnique, purement chorégraphique. Il y a un seul mot tout au long du spectacle, indépendamment des karaokés qu'on va entendre. Il y a un seul mot, c'est « et puis merde », qui définit peut-être de façon un peu en exergue peut-être votre vision de la vie au quotidien aujourd'hui. Et donc c'est ça, par quel bout prend-on ce type d'agencement théâtral et chorégraphique ?
En fait, la volonté, c'était de faire du théâtre, mais on enlève le texte. Donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant parce qu'on développe plein d'autres moyens. Et en même temps, notre métier, c'est de raconter des histoires, raconter des humanités. Donc c'était très important de rester sur ce créneau-là. Et puis nous, on n'est pas des circassiens. Donc il y a des circassiens qui font du burlesque très bien, qui font des choses incroyables. On savait qu'on ne pourrait pas être à cette hauteur. Donc on avait intérêt à raconter ces histoires, aller dans ces petits drames. Parce qu'aussi, sur le burlesque et sur le rire, on savait qu'il fallait que les spectateurs puissent avoir une grande empathie pour ces personnages, pour que le rire ait cette cruauté intéressante. Hein, on rit parce qu'on se reconnaît dans ces petits malheurs de la vie.
Vous aussi, Pierre Guillois, vous avez utilisé une caméra pendant vos séances de travail. Vous avez filmé vos improvisations, les propositions que vous faisiez les uns les autres avec Olivier Martin-Salvant et Agathe Lhuillier, vos partenaires de scène qui ont coécrit ce spectacle avec vous. Comment est-ce que vous, ensuite, après avoir filmé, vous figiez ce que vous aviez réussi à obtenir ? Comment est-ce qu'on construit après cette trame ?
En fait, de toute façon, c'est des petites couches, petit à petit. Donc, on est parti d'improvisation. Les premières étaient affligeantes. On n'arrivait pas à trouver l'écriture, en fait. Parce que nous, on n'est pas des spécialistes du burlesque. Donc, on ne voulait pas faire du clown, on ne voulait pas faire du mimodrame. Mais évidemment, on a piqué à tout le monde. Donc par exemple, l'histoire du sans-texte, ce ne sont pas des personnages qui sont muets. Ce sont des personnages qui sont pris dans des situations où ils ne parlent pas. Soit ils ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas besoin, soit parce qu'ils n'y parviennent pas, etc. etc.
Ils vivent seuls et ils sont tous assez handicapés de la communication.
Oui. Oui, voilà, ils ont des problèmes avec ça et puis ils sont pris toujours dans des situations un petit peu compliquées pour eux. Donc c'est comme ça que ça s'est construit. Donc l'écriture, elle s'est faite par couches, on filmait et le fait de voir nos improvisations nous a permis petit à petit justement de trouver comment rendre les scènes claires, rendre les scènes lisibles, de voir comment une accélération, une suspension, tout ce qui est changement de rythme, la précision des regards, tout ce qui permettait de rendre absolument claires les scènes.
Et ça continue à bouger au fil des représentations, cette trame ?
La trame, non, maintenant elle est fixée. On a mis quelques temps sur les premières tournées à le faire, sur les premières dates. Maintenant, la trame, elle est très précise, mais tous les jours, on change des petites choses, des petits détails, on resserre le rythme, on change des accessoires pour justement obtenir de plus en plus de clarté. Parce qu'on sait très bien que plus on est clair, ben plus on obtient de rire, plus on obtient d'attention sur les histoires que nous racontons.
Alors sur la gauche, il y a la petite chambrette, la pièce, le cube de Olivier Martin-Salvant, tout blanc.
Le geek,
extraordinaire WC chimique, ouverture sonore. Et puis à l'intérieur, dans cet espace-là, quand même se déroule par deux fois, c'est un truc absolument irrésistible, qui est un exercice de karaoké. On écoute donc le karaoké scandinave. Öfter ich mein Chinech
echt mijn richtig. Geen echt, dit het ocht met een klaag. Die hagen dag. Met klaag.
Le grand talent d'Olivier Martin-Salvan a inventé des langues qu'on ne saurait imiter par la suite. Là, il s'agit de « Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle » dans une sorte de suédois, on peut dire.
Mais improbable.
Et comme vous le soulignez très bien, Pierre Guillois, pendant qu'on écoutait attentivement ce karaoké, c'est une pièce, c'est un mélo burlesque, c'est quand même le sous-titre de Bigre. Donc on est vraiment à cheval entre du comique et une grande forme de mélancolie liée justement à la solitude des trois personnages.
Oui, et donc par exemple pour cette chanson, c'est des catastrophes amoureuses à ce moment-là, pour les deux garçons, pour la fille aussi. Et à la fois c'est très drôle la performance d'Olivier qui chante ce karaoké impossible, et en même temps c'est très triste et c'est accessible au spectateur parce que Olivier a une très belle voix. Mmh. Donc ça permet d'accompagner. Très joliment, cette tristesse.
Émilie Brisavoine, dans le spectacle Bigre de Pierre Guillois, il y a des espaces restreints qui sont dans des petites boîtes, évidemment trop exiguës pour les rêves et pour la vie quotidienne, les plaisirs de ces personnages. Donc ils doivent se débrouiller avec cet espace restreint. C'est un peu pareil dans Pauline Sarrache, il y a des affaires de chambre. Alors la chambre est à soi, elle n'est pas aux parents. La chambre n'a pas à être squattée par la sœur. Et puis en plus, quand une caméra portée par la demi-sœur s'en mêle, ça devient absolument terrible. Là aussi, il vous a fallu fonctionner à l'intérieur d'un espace que vous connaissiez, mais vous trouvez votre circulation, votre trajectoire à l'intérieur de cet espace quand même. Avec
oui.
Une caméra sur l'épaule.
Bah, c'est peut-être, ça vient de ma position. Comme j'ai 10 ans d'écart avec ma sœur, j'habite pas dans la maison, donc je suis pas directement liée au conflit propre à un espace familier. Et puis, comme je viens pas souvent et qu'il y avait aussi la caméra qui était comme un spectateur de Pauline, quoi, et puis à s'adresser à moi. Du coup, c'était pas comme si j'étais un membre de la famille quotidienne.
Ce qui est frappant dans votre film, Pauline Sarrache, c'est qu'on a l'impression que votre sœur et vos parents, enfin votre mère et votre beau-père, s'accommodent très facilement de la caméra. Vous avez dit plusieurs fois qu'il n'y avait aucune mise en scène. Tout a l'air très naturel devant votre caméra.
Au début, c'est compliqué parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de cette caméra. Mais au fur et à mesure, en fait, plus on filme et plus la caméra devient absente. Et Pauline me dit même, je ne me rappelle même plus que tu avais une caméra. En revanche, ma mère, elle n'est pas à l'aise avec la caméra.
C'est ce qu'on entend dire.
Et c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre un rush justement dans le film où elle explique ce rapport un peu ambivalent à la caméra qu'elle a, quoi.
Oui, parce que les personnages les moins à l'aise avec la caméra, c'est le père qui est transformiste, travesti, qui joue Marilyn Monroe sur scène. La mère qui est aussi une chanteuse, qui a eu un parcours d'artiste. Donc eux,
non, ma mère, elle n'est pas chanteuse.
Enfin non, mais il y a une dimension,
non,
je dirais, spectaculaire chez le personnage.
Oui,
un noctambule, voilà. Donc là, ils ont un désir de spectacle quand même, un désir d'être vu, de se montrer. Et c'est eux qui ont le problème, alors que Pauline, qui n'a pas pu, n'a pas vraiment le désir de caméra au départ, est spontanément naturelle. D'autant plus que vous avez utilisé quand même 60 heures de rush pour 3 ans de tournage, tous les modes de prise de vue possibles et imaginables. Donc j'imagine qu'au départ, évidemment, la situation a évolué considérablement jusqu'à l'arrivée. Elle a évolué vers plus de familiarité, plus de vérité, ou au contraire vers plus de, je dirais, de jeu, voire de cabotinage.
Les deux, en fait. En fait, vous dites que mon beau-père n'est pas à l'aise avec la caméra, alors que ce n'est pas vrai. Mon beau-père, il s'est toujours mis en scène, il a toujours aimé nous faire des spectacles. Moi, quand j'étais petite, j'étais fascinée par lui, parce qu'il se déguisait en Mylène Farmer, en Michael Jackson, pour mon frère et moi, et c'était magique, quoi.
En tout cas, il est très surpris de l'image que lui renvoie votre film.
Oui, alors ça, c'est la seule chose, justement, que j'ai mis en scène dans le film. C'est quand j'ai décidé que j'allais faire un film... il a fallu que je mette au clair mes intentions, et j'ai fait une heure de rush, une sélection d'une heure de rush avec tous les rushs susceptibles d'être dans le film. C'est-à-dire des rushs sombres, des rushs lumineux, des rushs de la vie quotidienne, des rushs surréalistes, poétiques, et je leur ai montré. Donc forcément, je pense que pour n'importe qui, c'est toujours un choc de se voir.
Tu me bats?
Mais
regarde, comme ça, toi, tu passes ta soirée à t'engueuler avec maman, mais sans moi.
Non, mais t'es gentil, je passe ta soirée à m'engueuler avec maman et sans toi. Et ça, je pense que là, on s'engueule souvent à cause de toi.
Justement, comme ça, si je suis pas là, vous engueulerez pas à cause de moi. Eh, attends, tu diras à maman, tu diras de s'acheter un psychologue, tu vois, c'est pas cher, il y en a plein partout.
Mais non, mais t'inquiète, c'est pas le temps de s'acheter un psychologue.
Je me sens, je sais pas comment expliquer, mais je me sens vraiment plus dans le coup, là.
En fait, ma famille, ils ont tous un bail dans le cul, tu vois, ou alors ils ont tous un explosif dans le cul.
Là, il était énervé.
Bande-annonce de votre film Pauline Sarrache, reconstituée, il faut bien le dire, par notre réalisateur Hervé Marchon. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir et entendre dans Bigre, vos personnages dans Pauline Sarrache parlent beaucoup plus. Il y a beaucoup de paroles. Votre sœur est, comme on vient de le dire, très à l'aise. Vos parents, un peu moins, mais ils finissent quand même par s'ouvrir et se dévoiler. Et l'autre particularité de votre film, c'est le recours au code du conte. Ça s'ouvre avec un « Il était une fois », avec un château. Votre mère et votre beau-père sont le roi et la reine. Vous êtes la princesse avec votre petite sœur Pauline. Qu'est-ce que ce recours au code du conte vous a permis d'exprimer ?
En fait, c'était important de prendre du recul avec cette matière très autobiographique. Et c'est pour ça qu'on a eu recours au conte, puisqu'il nous fallait une trame archétypale de narration qui permette une mise à distance et la possibilité de s'identifier de manière universelle, c'est-à-dire que ma famille est très atypique, mais l'enjeu, c'était pas de faire une psychanalyse de famille qui n'intéresserait que nous, mais au contraire, de poser des questions qu'on se pose dans toutes les familles, qu'importe comment elles sont, quoi. Et donc, le conte, c'était vraiment une manière de rendre beaucoup plus synthétique et archétypale. Justement, ces problématiques.
Pierre Guillois, vous, le théâtre sans parole, c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore vraiment tenté. Vous avez tenté la comédie musicale, le musical. Qu'est-ce que ce nouvel exercice, ce théâtre muet, mais comique, très précis, très corporel, vous a appris en tant que comédien et en tant que metteur en scène ?
L'enseignement de cette expérience, c'est incroyable. C'est-à-dire que je pense que ça servira pour tous les spectacles futurs parce que c'est une machine diabolique et que si on omet le moindre détail, on le paie à un moment donné ou à un autre. Si on n'en parle pas aux autres, si on n'en parle pas à la lumière, au son, au plateau en même temps, à l'habilleuse, on a des revers. Et sur cette histoire de clarté dont je vous ai parlé, je trouve ça très beau par rapport à moi, ce qui m'intéresse sur un théâtre qu'on peut faire pour un public le plus large possible. C'est-à-dire qu'on peut faire un théâtre extrêmement précis, exigeant, mais en même temps, cette histoire de clarté, c'est assez beau de se dire que c'est quelque chose qu'on peut toujours affiner, qu'on peut devoir au public, que ça ne fait pas du tout de mal à l'exercice artistique et ça ne fait que du bien. Mais c'est vrai que c'est très précis, très exigeant.
Pierre Guillois, tout cela s'achève par un apocalypse dont on ne dira rien.
Merci.
Il faut y aller, on répète qu'il faut y aller. Mais c'est effectivement une machine infernale et une mécanique de précision. On voit vivre ces personnages qui ont une vie difficile, une espèce de solitude, de désolation, en même temps d'euphorie en permanence. Quel rapport avez-vous avec les personnages pour arriver à créer une empathie, vous, en tant que comédien, et pour créer de l'empathie avec le spectateur, pour éviter quand même qu'on voit simplement comme des poissons dans un aquarium, ou des rouages à l'intérieur d'une horloge dont on aurait ouvert le boîtier, arriver à créer quand même une sensibilité, un rapport de à la fois d'euphorie, de tristesse, de désolation avec ces personnages. Comment, en étant aussi précis, aussi gymnique, aussi chorégraphique, sans parole, arriver à rendre l'émotion ? Est-ce que c'est un peu comme le travail du mime ou le travail du danseur ? Parce que ce sont des personnages qui nous touchent beaucoup.
Oui.
Ils sont tout de suite émouvants.
Mais parce que dès le départ, on s'était dit qu'il fallait absolument... bien que le projet, dès le départ, on savait qu'on aurait beaucoup d'accessoires et de la machinerie. Ça faisait partie du parc.
Même les accessoires sont émouvants. Parce qu'ils ont peu d'objets, on sent que ces objets ont été choisis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ils ont l'aquarium, le petit guéridon, le lit, la chaise. On sent que l'objet est précieux.
Je crois que la particularité de ce projet, c'est qu'on l'a construit ensemble, donc avec les acteurs, avec Olivier Martin Savon et Agathe Lullier. Donc tout est parti de la fantaisie et de l'imaginaire des acteurs. Donc, tous les petits accessoires, toutes ces petites choses racontent quelque chose. Plein de choses qu'on s'est racontées que le spectateur ne voit pas forcément, mais il les interprète différemment. Donc, c'est vraiment né de soucis d'acteurs. Et c'est vrai que ce projet, par exemple, c'est un projet d'acteur pour moi. J'ai voulu jouer, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. je voulais faire du sans-parole en tant qu'acteur, ça c'était certain. Donc, et puis après, voilà, c'était devenu un projet de 3 acteurs et qui ont petit à petit distillé en fait leur imaginaire, ben, dans cette mécanique, dans cette machinerie, etc. Parce qu'on a, au départ, en répétition, on a un peu tout fait nous-mêmes. Les histoires de fils, d'accessoires, on a essayé de bricoler ça nous-mêmes. Après, sont venus les techniciens du Quartz à Brest, là où on a créé le spectacle. Mais dans un premier temps, on a fait ça un petit peu en bricolant.
Émilie Brisavoine, vous, ça, pendant longtemps, vous avez cru que vous ne montreriez jamais ce film, en tout cas pas en salle. Quel a été l'argument, la personne qui vous a convaincu d'en faire un film ?
Ben, en fait, je savais pas que j'allais faire un film quand je tournais, lors du tournage. Mais après, au bout d'un moment, face à toute cette matière, il y avait la nécessité, justement, puisque vous parliez de clarté, de mettre au clair les choses, de sortir de ce chaos émotionnel. Et l'idée de faire un film, c'est un ami qui m'en a parlé. Il m'a dit que t'as beaucoup de matière, tu pourrais en faire un film.
Et vous lui aviez montré les rushs ?
Oui, j'avais montré quelques rushs à un ami et qui suivait un petit peu ce que je faisais. Et du coup, c'est vrai que ça répondait aussi à une nécessité intérieure d'y voir plus clair.
Mais des pièces de théâtre, il y a des scènes, il y a des actes, les scénarios, il y a là aussi des scènes, les storyboards. Là, il n'y avait rien. Non. Vous filmiez. À quel moment sentiez-vous qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait vous arrêter? Comment on peut gérer de filmer une scène de famille, par exemple? Vous arrêtiez en vous disant, tiens, ça y est, j'ai quelque chose de bien? Ou quel était le clap de départ et la fin des plans?
C'est vraiment, j'ai tout fait à l'intuition. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un peu redondantes et où il ne se passe pas grand-chose d'incroyable. Après, j'ai la chance d'avoir une famille qui a beaucoup de ressources mélodramatiques. Donc, c'était souvent, il y avait toujours beaucoup de choses. Après, souvent, j'arrêtais parce que j'avais mal au bras, que c'était trop lourd la caméra.
Il y a des choses que vous avez refusé de filmer, ça allait trop loin.
Bien sûr, souvent. Et puis après, il y a aussi toute la censure au montage. Et puis après, j'ai montré le film à ma famille et il y a une autre, j'ai enlevé deux, trois choses. Il y a beaucoup de censure. Hein.
Parce que effectivement, le recours à la structure du conte vous permet d'avoir une mise à distance, un peu mythique. Et puis en même temps, vous dites que ça n'est pas un travail de thérapie familiale, mais malgré tout, ça l'a été.
Oui. Enfin, ça a permis, j'imagine, une prise de distance, ça c'est sûr. Mais après, le film, c'est pas non plus une baguette magique. Mais je pense que dans le fond, moi, j'avais envie de faire quelque chose qui tende un miroir et qui permette. Justement de prendre du recul et d'y voir plus clair. Parce que quand on a la tête dans le guidon, dans la vie, c'est compliqué d'y voir clair.
Pierre Guillois, en termes d'influence, parce que votre spectacle Bigre fait penser à, nous ramène à plein d'images, celle de Jacques Tati, on pense à Deschamps aussi, Jérôme Deschamps, on pense à Chaplin, Keaton. Est-ce que vous avez visionné des films, est-ce que vous avez revu des pièces, des sketchs de tous ces gens que je viens de citer pour vous préparer?
Oui, on a revu des choses. En fait, on les connaissait bien. Mais on a revu, hein, on a revu des extraits de Laurel et Hardy, alors Loge, Jacques Tati, etc. Bon, après, on n'allait pas faire on fait pas du cinéma, on est vraiment dans une mécanique théâtrale. Mais bien sûr, c'est forcément des enseignements. En théâtre, c'est vrai qu'on manque de références, c'est vrai qu'on pense à Deschamps. Des gens d'actualité, bah, on pense à Mr Bean, des choses comme ça. On manque un peu de références sur le sans-parole. Mais bien sûr, on a revu, tenté de piquer à tout le monde. En même temps, quand on a commencé à répéter, on savait qu'il fallait inventer quelque chose. On ne fait pas de la citation de cinéma muet, etc. Mais c'est normal qu'on pense à tous ces gens-là, et tant mieux.
Notamment dans la gestion de l'espace, et notamment des orifices, si j'ose dire, c'est-à-dire des fenêtres, des placards communicants, des portes qui s'ouvrent et qui claquent. Là, il y a toute une tradition, je dirais, de la mise en scène burlesque de l'espace que vous avez reprise.
Oui, à partir du moment, en plus, on joue dans des espaces serrés. À une époque, on s'était posé la question de faire glisser les parois, que mon voisin, se sentant un peu à l'étroit chez lui, pousse petit à petit la paroi. Bon, voilà, c'est des choses.
Il n'y a pas les portes, mais il y a les verrous.
Oui, il n'y a pas les portes, mais il y a les verrous. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas gardées. Mais évidemment, l'espace était très, très important puisque ça parle des petits espaces et comment on fait une vie dans un petit espace.
La mise en scène sonore aussi est très importante. Elle rallonge l'espace. Je pense à ce vide ordure qui n'en finit pas, où on s'aperçoit du coup que vous êtes très haut dans l'immeuble. Voilà, l'équiproquo créé par la série télévisée, par le bruitage de jeux vidéo, c'est quelque chose aussi que vous avez étudié, qui vous a permis de raconter encore plus cet espace.
Tout de suite, de toute façon, le son est devenu une partition énorme et fondamentale, puisqu'il n'y avait pas de parole. Donc c'était assez évident que ça allait compenser. Et donc on s'est au départ beaucoup amusé nous-mêmes à inventer ces sons, beaucoup avec les bruits de bouche, etc. Et puis après, Roland Offray, l'homme qui a fabriqué tout ce son, a élaboré, parce que c'est très, très précis, il y a des enceintes partout, pour que ce soit assez réaliste quand même, très précis dans l'espace. Donc il y a un gros, gros travail de son. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture et on se retrouve dans un instant avec nos deux invités, le comédien et metteur en scène Pierre Guillois autour de sa pièce Bigre et la cinéaste Émilie Brisavoine avec son premier film Pauline Sarrache.
19h30, l'heure du journal de la culture. C'est à vous, Tiffaine de Rocchini.
Ping-pong. Bonsoir Tiffaine.
Bonsoir Émilie, bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors quand on évoque les moyens utilisés par Daesh pour recruter, on pense d'abord aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, qui seraient les plateformes privilégiées pour attirer en Syrie, en Irak, les candidats au djihad. Et pourtant, un autre moyen existe et il serait d'une redoutable efficacité dans le monde arabe. Il s'agit de la poésie.
Oui, une poésie essentiellement en arabe littéraire qui serait une arme pour attirer de nouveaux combattants sous la bannière de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Une poésie largement détournée pour servir la cause du djihad. Ce sont les conclusions de l'ouvrage d'Elizabeth Kendall, qui a fait cet ouvrage, donc 21st Century Jihad. Elizabeth Kendall est docteure en études orientales à l'université d'Oxford. Et pour elle, la poésie classique est un vecteur de recrutement majeur car elle est extrêmement populaire dans les sociétés arabes.
L'une de mes études, réalisée dans l'est du Yémen, a montré que 74% des hommes et des femmes appartenant à des tribus estiment que la poésie est importante ou très importante dans leur vie quotidienne, donc pas uniquement lors d'occasions particulières, mais tous les jours. Nous avons été vraiment surpris. Donc la poésie a un public important dans le monde arabe, c'est certain. Ce que mon étude a également révélé, c'est que la poésie est plus populaire dans les régions désertiques que dans les régions plus sédentaires. Et c'est important parce que les djihadistes ou les militants djihadistes ont généralement leur bastion dans des régions désertiques, tels que l'est du Yémen, le Sinaï dans le cas de l'Égypte, ou les régions désertiques en Irak, en Syrie, en Libye. D'autre part, l'étude montre également que Daesh et Al-Qaïda ont énormément recours à la poésie. 19% des pages du principal magazine de propagande d'Al-Qaïda au Yémen contiennent de la poésie. Et nous savons même que les vidéos qui sont mises en ligne actuellement contiennent un fond de poésie. La poésie se prête particulièrement bien aux nashids, ces hymnes psalmodiés et chantés qui servent de fond sonore aux vidéos montrant des opérations. Ils sont faciles à comprendre, facile à mémoriser et à répéter, et il reste en tête.
Dans les magazines de propagande d'Al-Qaïda et de Daesh, Sada al-Malaïm et Dabik, les vers sont souvent cités sans référence à leurs auteurs, et la plupart du temps, ils sont issus de la poésie classique, comme l'explique encore Elizabeth Kendall.
On part souvent du principe que cette poésie est nouvelle et créée de toutes pièces par les djihadistes, mais mon étude montre qu'elle provient en grande partie du patrimoine poétique arabe classique. Elle est ancrée dans la tradition orale, il s'agit souvent en partie de poèmes appris à l'école et que l'on ressort aujourd'hui, parfois accompagnés de nouveaux vers mélangés aux vers classique. Et on tient là quelque chose d'important parce que cela donne un message à la poésie et cela donne une apparente authenticité et légitimité au message. Cela replace également les événements actuels dans un contexte historique plus ancien. On a ainsi l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, les opérations en cours, étaient en quelque sorte destinées à arriver, que c'était écrit.
Face à cette propagande extrêmement efficace, la résistance s'organise et c'est un metteur en scène belge d'origine marocaine, Ismaël Saïdi, qui lutte aujourd'hui le plus activement contre la radicalisation, au moins dans le monde de la culture. Sa pièce intitulée « Djihad » se joue à guichet fermé depuis un an. Elle retrace le parcours de 3 apprentis djihadistes, véritables pieds nickelés continuellement tournés en dérision. Fadila Lahanan, alors secrétaire d'État chargée de la culture à Bruxelles, a déclaré la pièce d'utilité publique. On écoute Ismaël Saïdi.
La nouveauté, c'est que j'attaquais avec humour des sujets qui étaient profondément durs. Donc je parle d'antisémitisme qui est larvé, ancré. Donc je pense que l'humour, d'abord, c'est mon unique mode d'expression. en tout cas artistique. Après, je crois que c'est rassembleur, ça rassemble tout le monde, et ça a permis d'avoir dans la salle des gens de toute confession, toute couleur, toute origine, et tout le monde arrive à rire aux mêmes choses finalement. La pièce pour moi, c'est, j'ai raconté l'histoire de trois gars que je connais, qui auraient pu être moi, et je crois que la pièce pour l'instant, elle permet surtout de parler. L'art, c'est une arme qui permet la rencontre, parce qu'une salle de spectacle, ben, les gens sont dans la salle, et vous êtes sur scène, et vous leur parlez, ils vous voient, ils sentent vos émotions, ils vous voient trembler, ils vous voient vibrer, vous êtes comme eux finalement. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, encore plus qu'avant, envahir les scènes au sens noble du terme, donc envahir une scène comme artiste et ramener des gens et leur parler, c'est encore plus fort que ça ne l'était avant. C'est le dernier rempart avant l'obscurantisme, avant l'extrémisme.
Djihad se joue désormais tous les jours dans les collèges en Belgique et des représentations devraient également avoir lieu à Paris et à Nantes.
On passe au bref, Tiphaine. Donc hier, on signale aux auditeurs que c'est Christopher Nolan qui allait tourner à Dunkerque. Michael Haneke, lui, va à Calais.
Oui, et il tournera donc son prochain film qui s'intitulera Happy End, en écho à Funny Games, sorti en 2007. Pour ce nouveau long-métrage, le réalisateur autrichien a choisi de réunir à nouveau deux monstres sacrés du cinéma français, Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert. On les avait vus donc dans Amour. Alors, bien sûr, le choix du lieu n'est pas innocent. Haneke est un artiste engagé pour la cause des migrants, même si les réfugiés ne seront pas le thème principal du film.
Quant à Depardieu, eh bien, il va, je ne veux pas dire chausser ni endosser, mais se doter de la moustache de Staline.
Oui, ce sera dans le prochain film de Fanny Ardant, l'acteur abonné aux provocations, citoyen russe, rappelons-le, depuis 2 ans, incarnera donc le dictateur soviétique à la fin de sa vie. Le film est une adaptation du roman de Jean-Daniel Baltassa, Le Divan de Staline, publié en 2013.
Quant à la Shakespeare Gallery, elle avait fermé en 1805, ping-pong n'existait pas tout à fait, et elle renaît sur Internet.
Absolument, le musée londonien rassemblait au XVIIIe siècle les gravures des pièces du dramaturge. Il avait alors été ouvert en 1789, pour promouvoir l'école anglaise de peinture. Le musée a connu un véritable succès populaire, mais les dettes l'ont obligé à fermer en 1805 et la collection a été dispersée. Des chercheurs de l'université d'Austin au Texas ont donc entrepris de ressusciter le musée. On peut désormais se balader en ligne dans les 3 salles de la galerie reconstituée. Un hommage qui intervient juste avant la célébration en 2016 des 400 ans de la mort de Shakespeare.
Merci Tiphaine et à demain donc pour un autre journal de la culture. Réaction de nos invités à ces nouvelles, l'utilisation de la poésie pour le djihad, Pierre Guillois.
Ben, il paraît que même en France, la poésie est la chose la plus lue en prison par exemple. Incroyable.
Hein, incroyable, ça nous
là, là en l'occurrence, c'est plutôt...
De loin.
Les geôliers qui utilisent la poésie. Émilie Vrizavoine.
Moi, je suis persuadée du pouvoir de la poésie, ça c'est sûr. Après, bon, bah, elle est instrumentalisée, mais moi, je pense que la poésie est puissante.
Vous-même, vous avez réagi, Émilie Vrizavoine, à la nouvelle que nous avons apprise sur Gérard Depardieu qui allait bientôt donc endosser le rôle de Staline. C'est quelque chose qui vous a fait rire, qui vous étonne peut-être?
Non, ça ne m'étonne pas, mais ça me fait beaucoup rire.
L'ouverture d'Abou Hassan de Weber, un opéra que vous avez mis en scène, Pierre Guillois. Qu'est-ce que... Alors là, justement, il fallait chanter, il fallait parler. Il y a beaucoup de bruit dans un opéra. La mise en scène d'opéra vous apporte quoi dans votre trajectoire personnelle? Vous avez aussi travaillé sur Rigoletto et l'opéra contemporain.
Oui, alors il se trouve que j'ai toujours fait avec le lyrique, des choses un petit peu bizarres. Hein. Pour le moment, j'ai pas fait de... L'Abou Hassan, c'était avec l'orchestre sur scène, c'était avec donc les trois...
Rappelons que c'est un opéra comique de Karl Maria von Weber, tiré des Mille et une nuits, donc un chef-d'œuvre, on peut dire, du romantisme allemand, sous sa forme comique.
Avec un livre absolument horrible. Loïc Boissier, qui m'avait invité à faire cette mise en scène, a permis que j'explose le livret, donc on s'est beaucoup amusé, et du coup, c'était très bouffe. Et là, ça ne jouait qu'une seule fois à Besançon. Voilà, c'était absurde. Cet été, on a monté Rigoletto avec la compagnie de rue Les Grooms. Donc c'est toujours du lyrique, mais de façon un petit peu étrange.
De même, à côté de ces formes que vous expérimentez en dehors du théâtre, il y a quelque chose que l'on remarque quand on regarde votre parcours, c'est ces collaborations qui reviennent très souvent dans votre parcours, les pièces que vous avez coécrites. Par exemple, avant Bigre, que vous avez coécrit avec Agathe Lullier et Olivier Martin-Salvant, il y a eu Le Chant des Soupirs avec Annie Ebrel, Nique la misère et Les Affreuses avec Noir à Nagouche, Le Grand fracas issu de rien qui est aussi une création collective. Qu'est-ce que ces collaborations vous apportent? Pourquoi cette nécessité de travailler avec?
En fait, tout s'est déclenché à Colmar. J'ai rencontré Guy Benisti dans le cadre d'un projet qui se passait dans les quartiers à Colmar, dans les quartiers pauvres. Et on a collaboré ensemble sur l'écriture. C'était très compliqué et en même temps, c'était extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, ma vision du théâtre a complètement changé. J'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses différentes. On n'avait pas besoin de rentrer forcément dans le sillon classique, et pas le mot, mais traditionnel de la mise en scène de texte. Et depuis, je trouve que tout est possible. Donc, la collaboration, l'écriture, le récit, enfin, tout est possible. Donc voilà, donc c'est parce que tout me semble possible.
Même le cinéma. Un jour.
Un jour, peut-être.
Pierre Guillois.
Je suis très loin du cinéma pour le moment, mais peut-être.
Dernière question, Pierre Guillois. Vous avez vécu une expérience assez particulière qu'on peut vivre en France quand on se fait du théâtre. Vous avez été directeur pendant de nombreuses années du théâtre de Bussan. Un théâtre de Bussan, c'est un théâtre populaire situé dans les Vosges qui a cette particularité. Moi, j'y ai fait un reportage dont je m'en souviens très bien. C'est un théâtre en bois, comme une sorte de grande grange communautaire qui est en pleine forêt. Et le fond du théâtre s'ouvre sur la forêt. Alors là, on est effectivement plein dans le romantisme complet. Là aussi, c'est une expérience très particulière. Parmi les différents lieux qu'un metteur en scène, acteur, écrivain, dramaturge peut diriger en France, le théâtre de Bussan, c'est même très spécifique. Il a été fondé il y a plus d'un siècle par Maurice Potcher. La famille de Maurice Potcher s'en occupe toujours. C'est un lieu étonnant.
C'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu où on peut faire des choses extrêmement puissantes. C'est-à-dire qu'au-delà de cette image un petit peu bucolique qu'on a du lieu, c'est un lieu qui est porté par une ferveur de spectateurs insensés. Et c'est un lieu de liberté extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, on y fait ce qu'on veut du moment que ça marche. Du moment qu'on réussit ce pari d'un théâtre populaire, je préfère dire grand public parce qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire populaire. Donc un théâtre qui permet de briser quelques frontières culturelles et sociales comme il le peut. Et c'est un lieu fou. C'est un lieu où on travaille avec à la fois des amateurs et des professionnels. Donc on fait des grands plateaux tels qu'on ne peut plus les vivre. Où on fait des spectacles qui restent un mois et demi, qui vont faire 20 000 spectateurs. En province, voilà, c'est quasiment impossible de vivre ça nulle part ailleurs. Donc c'est une expérience, ça m'a appris énormément. Parce que c'est un lieu dur aussi. Parce que les spectateurs arrivent avec beaucoup d'espoir. Avec beaucoup de mémoire, avec parfois des attentes qui ne sont pas celles du metteur en scène qui arrive. Puis en même temps, le lieu est plus fort que tout. Donc il faut trouver la façon de négocier en fait, entre ce public, mais qui n'est pas figé non plus, puisqu'on peut faire venir beaucoup de nouveaux publics. Donc rien n'est figé. Et en même temps, il y a une histoire qu'il faut respecter. Et ce qui a été beau, c'est d'avoir pu faire des créations parce qu'il y avait une tradition plutôt classique, mais au-delà de l'histoire des textes de Maurice Potcher, mais d'avoir pu inviter des Rémy DeVos, des Marion Aubert, David Lescot, à écrire pour ce lieu et à faire des immenses succès avec des auteurs que personne ne connaissait là-bas.
Vous dites à Bussan, on est dans quelque chose d'impur. Vous avez dit ça dans une interview donnée au Monde en 2008, je crois. Qu'est-ce que ça dit du théâtre que vous voulez faire, continuer à faire en tout cas?
En fait, j'ai évolué évidemment dans un système de théâtre institutionnel où on nous fait peut-être croire que le théâtre a besoin d'un espace pur, d'un écrin, de quelque chose pour faire du théâtre radical, pour que le poète, l'artiste poète, a tous les droits, n'a pas à se soucier du public, etc. Et puis, en fait, tout ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je me développe plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire que je trouve ça très beau, la contrainte du public. C'est difficile, il n'y a rien d'acquis, on ne plaira jamais à tout le monde. Mais l'exemple de ce qu'on a fait à Busan, de faire le gros lavage chez le Ménat, qui était une œuvre avec beaucoup de provocations, très trash, et en même temps, qui a un spectacle qui a fait énormément de succès, avec ces tensions que ça provoquait au sein du public, c'était un peu la preuve qu'on pouvait faire un théâtre un peu catégorique, un peu spécial, tout en se souciant du public et de réunir un maximum de monde sur des œuvres très particulières.
Alors avant de passer à la suite, dans la plus pure tradition du ping-pong Angeliero Chaudessien, on s'est dit que tous les jours de cette semaine, on vous ferait écouter un morceau lié de près ou de loin au ping-pong ou au tennis. Et aujourd'hui, nous vous avons préparé ce morceau d'Herbie Hancock qu'on peut entendre à la fin du film Blow Up de Michelangelo Antonioni. À la fin de ce film, il y a donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'en dis pas plus, une partie de tennis un peu particulière. Émilie Brisavoine, à la fin du générique de votre film, Pauline Sarrache, on retrouve des noms familiers, ceux de Virgile Vernier, le réalisateur des Mercuriales, très beau film qui est sorti en salle il y a plus d'un an déjà. Arthur Harari aussi, que vous appelez Mata Harari, je crois, la Janka, c'est ça dans le générique? Non, c'est ce que j'ai cru lire, mais c'est un vieux souvenir déjà.
C'est Tom Harari.
Tom Harari, d'accord. Donc, c'est le directeur de la photographie de Justine Triet.
Aussi.
Voilà, c'est ça. Et puis, un autre, donc Mata Harari, donc c'est Tom Harari. Mais toute cette bande des Vernier Triet, vous avez joué dans la bataille de Solferino de Justine Triet. Toute cette petite bande-là, qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre démarche cinématographique, pour le coup?
Bah, beaucoup d'encouragement, justement. C'est eux qui m'ont encouragée à faire ce film et puis aussi regarder des rushs, regarder des montages, se soutenir, quoi. Du soutien.
Vous dites que vous ne ferez plus de films. Enfin, vous avez dit ça, en tout cas.
Ah bon, oui.
dans l'émission Backstage.
On vous l'a fait dire, peut-être.
Vous avez dit sur France Culture, il y a quelques semaines déjà, que vous aviez tout dit avec Pauline Sarrache. Alors, c'est plus vrai.
Ah oui, ils m'ont demandé si je voulais refaire la suite de Pauline Sarrache, si je voulais refilmer ma famille. Mais je pense que j'ai travaillé 5 ans sur ça. Je peux passer à autre chose maintenant, à moins d'être vraiment monomaniaque.
Justement, voilà, quels sont vos projets? Parce qu'il y a le cinéma, il y a le graphisme, il y a la bande dessinée, au carrefour.
Le PETAS aussi, ce projet.
Ah oui, ça c'était mon projet de fin d'études à l'école du Perret, parce que j'ai fait un DSA d'art appliqué. Et j'avais travaillé sur un concept que j'avais inventé qui s'appelait le PETAS. Qui était
le PETAS.
Oui, le, parce que c'était un terme générique qui exprimait, qui faisait part de la misère symbolique dans nos représentations contemporaines, et notamment tout ce qui était lié aux médias de masse. J'avais travaillé autour de ça avec du dessin, beaucoup de collages, et j'avais réexploité tout ce vocabulaire plastique pour en faire tout un corpus plastique.
Et le théâtre, on va vous pousser comme ça dans des chantiers nouveaux.
Non, mais j'aimerais bien refaire un autre film, oui, parce que j'ai découvert le cinéma par hasard, mais ça a quand même soulevé beaucoup de questions esthétiques, poétiques, qui m'ont passionnée et que j'ai envie de développer, notamment dans une fiction. J'aimerais bien faire une fiction.
Et Pauline, est-ce qu'elle songe toujours au cinéma? Qu'est-ce qui va se passer pour elle?
Je sais pas trop, mais ça serait super, ouais, pour elle. Après,
pareille explosion, j'imagine qu'elle a été remarquée par les producteurs, les réalisateurs.
ça serait bien qu'ils se fassent connaître, ouais.
Très bien.
Ping-pong. La culture sans limite.
Maintenant, place à du teigneux, place à du charnu, place à du lourd. Voici le CD du jour. Sur la pochette, le barbu frontal qui marteau-pilonne ses fûts s'appelle Fabio Rondanini. Le claviériste retour du cosmos, malaxant les touches, Enrico Gabrielli. Quant aux titans du manche 4 et 6 cordes, ils insistent pour se nommer Luca Cavina et Massimo Martellotta. À eux 5, ils forment Calibre 35. Un combo électro-funk milanais, sans doute biberonné aux Goblins, aux splendeurs du cinéma ZSF italien, tendance Destination Planète Hydra ou La planète des vampires de Mario Bava, à moins qu'il n'ait séché le caté pour se délecter de Milan Calibre 9, thriller sanglant du grand Ferrandino Di Leo comme pièce à charge au dossier. Apprêtez-vous à écouter, enregistré à Londres, live et sans montage par pas moins que le grand Tommaso Coliva, Bandit on Mars. Alors couchez les vieux, réveillez les mômes, liquidez le PEL, voici Calibre 35. Voilà, pour les contactés qui veulent répondre aux questions de la police, l'OVNI sonore se nommait Bandit on Mars, tiré de l'album Space de Calibre 35, mégagroupe milanais, un groove qui ne fait pas de prisonniers, paru sur le label Record Kicks et pas d'apparition signalée en concert. On se tient au courant.
Parfois, j'aimerais que nos auditeurs puissent avoir l'image pour vous avoir vu danser.
Vous êtes en train de tressauter sur le fauteuil.
Trémousser sur le fauteuil, François. Ping-pong, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci à nos invités. Pierre Guillois nous a quittés, donc on le salue. Il est reparti sur scène. Donc
vers le Théâtre du
Rond-Point. Voilà, vers le Théâtre du Rond-Point. Bigre est visible donc au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 17 janvier. Et puis, Émilie Brisavoine, longue carrière à Pauline et à Pauline Sarrage, donc visible sur les écrans depuis...
Le 23 décembre dernier.
Décembre.
Merci aussi à toute l'équipe de Ping Pong qui prépare cette émission. À nos côtés, Chloé Leblon et Lucie Spindler à la préparation. Tiffaine de Rocchini pour le Journal de la Culture. Thomas Beau à la programmation musicale, Hervé Marchand à la réalisation. Et ce soir, comme chaque soir de cette semaine, c'était toujours Jacques Hubert. Demain, François.
Alors demain, nous recevrons Noël Birch, historien du cinéma, qui nous initiera aux délices de la viragophilie. Je ne vous en dis pas plus. On reçoit également le dessinateur Mathieu Chiara. Mais pour l'heure, qui retrouve-t-on, Émilie ?
Denis Podalydès.
De la Comédie Française.